Décryptage, Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Décryptage nous emmène ce soir en Arménie. L'Arménie confrontée à une grave crise politique, un premier ministre dont la démission est réclamée par l'opposition, des désaccords criants avec le président arménien, et derrière tout cela, eh bien, un conflit qui a laissé des traces dans le Haut-Karabakh, conflit avec l'Azerbaïdjan qui s'est soldé par un cessez-le-feu synonyme de défaite pour l'Arménie, avec la perte de nombreux territoires symboliques. Est-ce que la crise politique actuelle est la conséquence directe de cette débâcle? C'est une des questions qu'on va poser à notre invité. Que dire du rôle de la Russie en Arménie, Moscou qui a supervisé l'accord de cessez-le-feu du mois de novembre? Est-ce que la Russie, eh bien, avance ses pions en Arménie comme elle le fait dans d'autres pays de la région? Quel est l'état de l'opinion arménienne aujourd'hui? Voilà le programme ce soir. Soyez les bienvenus. Bonsoir, Taline Termination.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur RFI. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine de Russie et du Caucase à l'INALCO et directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse le point sur cette crise politique que j'évoquais. Le dernier événement en date, c'est Nicole Pachinian, le Premier ministre, qui se dit prêt à des élections législatives anticipées. Alors, l'opposition souhaitant sa démission, est-ce que ça ne risque pas de précipiter sa chute? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça, qu'il était pour des élections législatives anticipées?
Alors écoutez, bon, ça nous fait directement rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que l'Arménie est dotée d'un système constitutionnel parlementaire, je dirais ultra parlementaire et ultra compliqué, ce qui explique des discussions absolument interminables sur justement cette question des élections. Alors d'élections anticipées dont il a été question, dont l'opposition ne veut pas vraiment, parce qu'en fait il suppute que le Premier ministre en position de pouvoir actuellement est donc en mesure de mobiliser une partie de l'électorat qui lui reste, et d'autre part en mesure de mobiliser dans ces pays post-soviétiques, c'est très important, la fameuse ressource administrative lui permettrait en cas d'élection presque à coup sûr de le remporter. Mais en fait, la question est beaucoup plus compliquée que cela, parce que pour organiser des élections anticipées, il faut que le Premier ministre donne sa démission. Et donnant sa démission, eh bien, le Parlement devrait être en mesure de proposer un remplaçant, et c'est justement ce qu'il ne veut pas. Donc on dans une sorte d'impasse pas d'impasse constitutionnelle, mais des jeux constitutionnels particulièrement subtils, et qui c'est peut-être même pas vraiment le mot, mais enfin des jeux constitutionnels très compliqués et auxquels le public n'est pas forcément très habitué.
Et de toute façon, ce que vous nous dites, c'est que même si Nicole Pachinian, le Premier ministre donc d'Arménie, présenter sa démission, il serait sans doute le mieux placé pour être élu, parce que finalement il y a personne à sa hauteur parmi l'opposition.
C'est en fait beaucoup plus compliqué que cela, parce qu'il exige pour la tenue de ces élections anticipées, il exige que l'opposition ne présente pas de contre-candidat dans l'intervalle prévu par cette fichue constitution. Excusez-moi, je suis un peu familière, par cette constitution nouvellement parlementaire depuis que des amendements ont été pris en 2015 et qui ont transformé assez malencontreusement, je me permets de le dire, l'Arménie en un régime parlementaire qui aurait été mieux adapté à un pays comme la Norvège ou la Suisse, mais certainement pas à un pays, en tout cas post-soviétique, dans la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire une situation de grande fragilité institutionnelle. Si je devais dire les choses de façon pédagogique, je l'expliquerais de cette manière-là.
Alors, donc, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, dans la ligne de mire clairement de l'opposition, mais il y a aussi des désaccords, je le disais, avec le président. Pourquoi ces désaccords?
Alors, le président dans ce système parlementaire il n'a pas de grand pouvoir, mais récemment, il y a eu un épisode qui a déclenché la crise institutionnelle dans laquelle nous nous trouvons, puisque le chef de l'état-major de l'armée arménienne, certainement exaspéré par les insinuations ou les déclarations de Pachinian, se défaussant, si vous voulez, de la responsabilité responsabilité de la défaite dans la guerre des 44 jours, se défaussant sur l'armée, eh bien, a fini par déclarer qu'il rejoignait le camp de ceux qui demandent la démission du Premier ministre, le jugeant incompétent. Et cette déclaration donc de ce chef d'état-major, Onyx Gasparian, a donc été interprétée un peu à dessein par Nicole Pachinian il y a 4 jours, quand il a dit ah bien, c'est un coup d'État, voilà, voici une tentative de coup d'État contre laquelle je veux combattre. Et donc, cette histoire de coup d'État était un peu surjouée parce que les militaires n'étaient pas du tout en train de faire un coup d'État. Ils exprimaient simplement donc cette nécessité de la démission, ce qui a déclenché pour le coup une mesure de rétorsion qui est le limogeage du chef d'état-major, acte officiel que le président cette fois-ci a refusé de signer, ce qui donc a déclenché cette fois-ci une nouvelle situation institutionnelle de conflit, si vous voulez, entre le premier ministre et le président.
Oui, pour résumé, c'est ça, l'état-major qui a réclamé la démission de Nicole Pachinian, le Premier ministre, qui a crié, donc vous le dites, un coup d'État et demandé donc la démission du chef de l'armée, qui a été refusé par le président. Est-ce que ça peut virer tout ça à l'affrontement politique? Jusqu'où est-ce que c'est ce bras de fer entre le président de la République et le Premier ministre peut aller, avec l'opposition qui multiplie les manifestations? Il y en a eu pendant 3 jours la semaine dernière.
Oui.
L'armée.
Et l'armée, oui, mais l'armée, selon moi, c'est très difficile de faire des prédictions, mais l'armée n'est pas du tout mis en état de désir d'accomplir des coups d'État militaires et absolument pas en situation de le faire. D'accord. Après, justement, la question de la défaite. Mais en revanche, la question de l'affrontement institutionnel entre le Premier ministre et le Président pourrait expliquer les récentes déclarations de Nicole Pachinian sur la place de la République lors de son dernier meeting avant hier, le 1er mars, lorsqu'il a déclaré non seulement vouloir peut-être des élections anticipées, mais surtout de nouveaux amendements constitutionnels visant à rétablir, alors on revient à la situation précédente, visant à rétablir un régime semi-présidentialiste. Et dans ce cas, on peut imaginer que s'il fait une telle proposition, c'est qu'il espère évidemment tirer de tels amendements à son avantage et devenir donc à son tour président et ainsi en finir avec ce conflit institutionnel que je viens de décrire, avec un président d'ailleurs sans grand pouvoir. Et donc, ce scénario est peut-être dans sa tête. Mais encore une fois, je ne suis pas dans les médans de son esprit. Il a simplement fait une déclaration dans le même meeting en disant que la révolution de velours s'était terminée, laissant entendre que désormais on ne donnerait plus dans le velours. Alors, aussi, c'est quelque chose qui laisse un peu
et qui fait craindre possiblement des affrontements en Arménie. On va essayer de prendre un peu plus de recul et de ne pas s'arrêter évidemment qu'à la politique intérieure en Arménie. Cette révolution de velours que vous évoquez, c'est une révolution pacifique qui a mené Nicole Pachinian au pouvoir en 2018. Près de 3 ans plus tard, pourquoi est-ce qu'il est autant désavoué aujourd'hui?
Enfin, en désaveu parce que l'Arménie vient de traverser ce que certains identifient comme étant la plus grave crise de l'État contemporain. Alors c'est un État contemporain qui est jeune. L'Arménie en tant qu'État à l'époque contemporaine n'existe que depuis 1918 et depuis l'époque post-soviétique seulement depuis 1991. Donc déjà il y a le long choc de la défaite auquel viennent s'ajouter forcément les nécessaires.
De la défaite, est-ce que vous pouvez détailler pour nos auditeurs? Vous évoquez évidemment le conflit dans le Haut-Karabakh.
Oui.
Qui s'est soldé. Donc on rappelle, le Haut-Karabakh, c'est une région séparatiste d'Arménie où de nombreux Arméniens vivent.
Une enclave qui était une enclave administrative à l'intérieur de l'Azerbaïdjan soviétique, donc un district, une région autonome à l'intérieur de l'Azerbaïdjan soviétique, qui a déclaré de façon unilatérale son indépendance à la fin de l'époque soviétique.
Oui, voilà, c'est un conflit récurrent, je la fais courte, c'est un conflit récurrent depuis des dizaines d'années qui a ressurgi en fin d'année dernière et qui s'est soldé par un cessez-le-feu synonyme de défaite pour l'Arménie. C'est ainsi qu'on peut le dire.
c'est un peu, ah oui, c'est insuffisant qu'on peut le dire, mais enfin, c'est l'aboutissement de 30 années de conflit, parce qu'en réalité, il y avait déjà eu une première guerre du Haut-Karabakh entre 88 et 94, gagnée par l'Arménie, situation au terme de laquelle l'Arménie, non seulement avait récupéré le Karabakh, mais aussi tous les périmètres adjacents du périmètre de sécurité, et donc, ces districts du périmètre de sécurité ont donc été restitués à l'Azerbaïdjan, tandis qu'une partie du Karabakh lui-même, d'ailleurs, est aussi occupée par l'Azerbaïdjan. Donc c'est évidemment une crise absolument terrible, dont on n'a pas fini, si vous voulez, d'étudier les conséquences, et qui place évidemment l'Arménie dans une situation très difficile. Mmh. Et forcément un test pour la politique du Premier ministre en place, qui n'a rien fait pour empêcher cette guerre, ou en tout cas, bon, la question se pose de savoir pourquoi est-ce qu'en Arménie personne n'a vu cette guerre venir, pourquoi est-ce que l'armée n'était pas bien préparée, etc., etc.
Et Nicole Pachanian, tenu responsable de ce cessez-le-feu, c'est une ligne de débâcle pour l'Arménie, t'as l'intermination, on va écouter un premier extrait sonore, témoignage de manifestants d'opposants à Nicole Pachanian, écoutez plutôt.
Il a vendu les territoires du Haut-Karabakh, c'est pas possible qu'après 44 jours de guerre, il n'y avait aucune autre option que qu'est-ce qu'il a signé. Il dit que Nicole Pachanian est un démon qui a vendu son pays.
Tallinn Termination, le Premier ministre arménien, bouc émissaire ou véritable responsable?
C'est vraiment très difficile de le trancher. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec l'histoire de la qualification de traître qui est en effet colportée lors de ces manifestations de l'opposition. Mais je pense que c'est surtout peut-être un certain manque de lucidité et de compétence. L'une des raisons pour lesquelles le chef de l'état-major militaire est quand même remonté contre Pachanian, c'est que si je crois bien me souvenir, il dit avoir averti le Premier ministre dès les premiers jours de la guerre qu'on était mal parti, que cette guerre ne serait pas gagnée, que l'Azerbaïdjan était surarmé, etc. Donc il y a eu à la fois une impréparation, ça c'est pas tout à fait Nicole Pachanian seule qui en est bien sûr le responsable, mais en tout cas un manque de conduite politique, et je pense que plus que la qualification de traite, je dirais, il y a eu comme une espèce de conduite irresponsable qui finalement a conduit à poursuivre une guerre absolument meurtrière qui a fait au moins 5000 morts du côté arménien, c'est le seul chiffre qu'on connaisse, pour rien, pour une défaite. Et c'est évidemment quelque chose que les gens ne peuvent pas accepter. Et de l'autre côté, bon, effectivement, il y a une frange de la population qui le qualifie de traître, mais alors après, selon quelle alternative? Est-ce qu'il souhaite repartir en guerre, et de quelle manière? Ça me paraît quand même là aussi très, très difficile d'envisager cette chose de façon pragmatique et sérieuse, mais je me pose la question.
Alors, illustration justement de cette défaite, comme vous le dites, dans le Haut-Karabakh, cette défaite pour l'Arménie, Tallinn Termination, vous avez évoqué le bilan humain, 6 000 morts effectivement en 6 semaines et près de 10 000 km² de terre qui ont été perdus. Vous avez dit dans les années 90, c'était le contraire, c'était l'Arménie qui avait été le grand gagnant de la guerre dans le Haut-Karabakh. C'est le contraire cette année. On va écouter l'inquiétude des habitants de Berdachen. Leur champ se trouve désormais en territoire azerbaïdjanais. Écoutez ce témoignage de Lusaper Pogosian au micro d'Anastasia Bekio.
Que pouvons-nous faire? Il ne nous reste plus rien pour vivre. Nos terres arables sont restées de l'autre côté. Or, de nombreux habitants cultivaient ces terres. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici, dans ces montagnes? Comment pourrons-nous subvenir à nos besoins? On leur a donné toutes nos terres. Ils entrent chez nous et ils décrètent. Tout ça, c'est à nous. Et ils viennent avec leurs fusils automatiques et tracent eux-mêmes leurs frontières. Et nous, on doit supporter tout ça.
Voilà, Tallinn Termination. Vous avez entendu ce témoignage intéressant. Effectivement, le cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh qui rebat pas mal les cartes. Comment ça va se passer entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais? Certains vont devoir cohabiter.
C'est toute la question. Ce village de Djagaden, j'y étais il y a 15 jours ou 3 semaines. Effectivement, la situation est vraiment impossible parce que si le village est d'un côté, est resté de la côté de la nouvelle, entre guillemets, frontière, tous les champs se trouvent de l'autre côté et tous les jours, il y a des incidents parce que les vaches vont brouter à flanc de montagne tout près du poste de surveillance des Azéris qui tous les jours appellent le maire et les forces d'interposition russes à cause de ces vaches qui naviguent de part et d'autre de la frontière sur des pâturages qui étaient naguère. Et pareil pour les champs qui ont été effectivement ensemencés par les villageois, mais qui sont restés de l'autre côté désormais de la frontière. Moi, je ne sais pas comment, effectivement, ça va être possible dans l'état de tension actuel, parce que si on pourrait, bien sûr, imaginer que la frontière puisse négocier et puisse vivre harmonieusement dans un avenir pas trop lointain, en même temps, on est bien obligé de constater que les tensions nationales, enfin interethniques entre Arménie et Azerbaïdjan sont encore très vives. Et puis si j'en crois le discours que Aliyev a proclamé hier ou avant-hier, où il dit très clairement qu'il est hors de question qu'il n'y aura aucun statut pour le Haut-Karabakh et qu'il ne discutera de rien du tout et que tout le Haut-Karabakh allait lui revenir, je ne vois pas très bien dans cet état de tension comment les gens vont faire pour vivre dans ces montagnes.
Alors rapidement, Taline Termination, justement, quelle est la clé finalement de cette crise en Arménie aujourd'hui? Est-ce que c'est un changement de Premier ministre, comme on l'a évoqué en début d'émission, Nicole Pachignan, est-ce qu'il doit partir? Ou est-ce que finalement c'est plus du domaine de la fierté à retrouver pour ces Arméniens justement qui sont meurtris par ce cessez-le-feu qui est clairement à leur désavantage? Comment parvenir justement à ça?
Tout va ensemble. Bon, je pense que en fait tous les acteurs les plus pragmatiques sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas que l'Arménie tombe dans une guerre civile, que peut-être Pachignan doit rester parce que il serait au moins le garant d'une espèce de transition. Mais pour l'instant, à vrai dire, aucune des parties en présence n'est vraiment en mesure de le dire, si ce n'est que tout le monde est à peu près d'accord pour penser que cette situation de défaite a rendu l'Arménie et le Haut-Karabakh, alors je ne sais pas lequel des deux, les a retransformés un peu plus en une sorte de protectorat russe. Et donc, pour l'instant, en fait, c'est la Russie qui, à mon avis, tient la clé de la stabilité. Et c'est d'ailleurs la seule chose sur laquelle toutes les parties en présence soient à peu près d'accord.
Alors là encore, je me permets d'intervenir, Taline Termination, parce qu'il faut préciser pourquoi la Russie, parce que la Russie a été médiatrice du cessez-le-feu conclu début novembre dans le Haut-Karabakh.
Oui, mais c'est aussi parce que c'est la seule alliée sur le plan diplomatique de l'Arménie. Elle est liée à l'Arménie par le traité de l'Organisation de la Sécurité Collective, au TSC, qui n'a pas fonctionné dans la guerre des 44 jours, dans la mesure où la guerre en question n'avait pas lieu sur le territoire de l'Arménie, mais sur le territoire du Haut-Karabakh. Mais néanmoins, c'est effectivement Poutine, et de ce que je sais, Poutine tout seul, qui a été l'artisan de ce cessez-le-feu et qui déployait les forces de maintien de la paix.
Et cessez-le-feu, voilà. Qui prévoit effectivement le déploiement de soldats russes. Est-ce que finalement, ça veut dire que l'Arménie est sous la coupe de la Russie, comme d'autres pays de la région, la Moldavie, l'Ukraine?
Le Karabakh actuellement, enfin l'Artsakh, enfin l'enclave, ce qui reste de l'enclave est clairement maintenant sous la surveillance des Russes, et c'est en fait cette surveillance qui fait que les Arméniens qui avaient fui pendant la guerre sont revenus parce qu'ils sont rassurés par la présence russe. Donc ça, c'est une chose, mais d'autre part, cette guerre de 44 jours, et en dépit de la récente gaffe que Pachinian a fait à la télévision à propos de missiles Iskander livrés par la Russie qui n'auraient pas bien fonctionné, cette guerre a en fait renforcé, bien entendu, la présence russe en Arménie. Et je dirais même, c'est plutôt à la demande de l'Arménie, mais c'est une évolution très paradoxale de la part de Pachinian, qui au départ, depuis la révolution de velours, avait des yeux de chimène plutôt pour l'Occident, etc. et qui finalement se retrouve maintenant être un petit peu dans le rôle peu enviable d'être une sorte de marionnette à la solde du Kremlin.
Eh bien, tout est dit. Merci beaucoup. L'Arménie marionnette à la solde du Kremlin. On va terminer avec ces mots. Taline Termination, qu'on va évidemment modérer, je comprends bien, professeur d'histoire contemporaine de Russie et du Caucase. Aline Elko, directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques. C'est la fin de ce décryptage consacré à la crise en Arménie. Merci à Eleonore Krenik à la préparation. Laurie Marie Plisson à la réalisation. Restez à l'écoute de RFI dans une poignée de secondes. Guillaume Nodin, le débat du jour à la une ce soir. Est-ce qu'il est encore temps de changer les règles pour les élections de 2022 en France ?
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser